Nous sommes donc au complet. Alors déjà avec 39 participants pour commencer, ce qui est déjà un quasi-record pour ces salons vocaux. J'espère et je pense que la soirée va être intéressante. Donc, Yvan Benetti, bonsoir.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous.
Alors, vous êtes le. Alors bon, pour pas faire de cachotterie à notre auditoire, je pense qu'on se tutoie tous les deux. donc tu es le représentant, le porte-parole, pardon, du mouvement Les Nationalistes et président envers et contre tout de l'œuvre française. Mouvement qui a été dissous en 2012, si je ne m'abuse. Est-ce que, donc là on parle beaucoup des dissolutions actuellement avec le cas de Génération Identitaire, mais on oublie toutes ces vagues très dures, les premières vagues très dures sur lesquelles la République, voilà, durant lesquelles la République est venue frapper notre milieu et ses mouvements les plus anciens. Est-ce que tu pourrais présenter un petit peu justement l'historique de l'œuvre française, d'où les nationalistes tirent aujourd'hui leur force, leur doctrine et leurs idéaux et exactement ce qui vous était reproché et ce qui aujourd'hui constitue votre combat.
Oui, alors la dissolution de l'œuvre française est intervenue en juillet 2013 suite à une affaire tragique, un fait divers tragique, la mort de l'antifa Clément Méric. L'œuvre française était, avec l'Action française, un des mouvements les plus anciens en France, et non seulement un mouvement les plus anciens, mais qui incarnait le nationalisme français, dont les origines remontent à la contre-révolution, c'est-à-dire au grand mouvement intellectuel, philosophique, politique qui a suivi cette catastrophe de la révolution bourgeoise de 1789. La particularité de notre courant de pensée, c'est que non seulement donc on s'enracine dans l'histoire, qu'on est le maillon d'une chaîne historique, donc on représente une chaîne historique. Ce mouvement est indissociable d'une personnalité, et Pierre Sidos, qui malheureusement nous a quittés en septembre de l'année dernière, et qui faisait le lien justement entre le nationalisme d'avant-guerre et le nationalisme d'après-guerre. Donc en fait, aujourd'hui, les nationalistes sont un petit peu sans être la reconstitution de l'œuvre française, bien que j'ai été condamné en justice pour cela, maintien et reconstitution de l'œuvre française, elle incarne ce courant. Quand la commission parlementaire de lutte contre l'extrême droite a été créée à l'initiative des députés mélenchonistes, un fafologue, je dirais, a été convoqué, c'est Nicolas Lebourg, qui est intervenu justement sur l'efficacité des dissolutions. Et en parlant de nous, il rappelait que ces dissolutions étaient un peu inefficaces, puisque avant l'œuvre française, il y avait le Parti nationaliste qui faisait suite à la dissolution du mouvement Jeune Nation, qui était un peu la réincarnation du Parti franciste d'avant et après-guerre de Marcel Bucard. Donc vous voyez que vouloir dissoudre les nationalistes, c'est vouloir dissoudre la France, en fait, et c'est impossible. Donc c'est ce que j'ai réaffirmé devant les tribunaux. C'est pas à Valls, Manuel Valls, qui n'était même pas français quand l'œuvre française a été constituée, de dissoudre un mouvement qui incarne la France.
Merci beaucoup. Alors justement, on parle d'incarner la France. Nous, si on a tenu à organiser tous ces salons vocaux, c'est aussi parce que les gens cherchent à comprendre de quoi est composé ce qu'on appelle le milieu. Alors nous, ici, justement, on laisse un sens très très vague au milieu, puisqu'on ouvre les portes à toutes les personnes qui veulent s'engager. On ne cherche pas nécessairement à discriminer. Ici, ce n'est pas notre rôle, en tout cas, discriminer les gens de bonne volonté et de bonne naissance. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la spécificité de la doctrine des nationalistes aujourd'hui? On a compris qu'ils sont ancrés dans quelque chose de bien plus ancien. qu'est-ce qui fait vraiment leur spécificité dans leur doctrine, dans leur programme, si tant est qu'on puisse parler de programme, et dans leur engagement au quotidien?
Oui, bien sûr qu'il y a un programme qui a été rédigé et publié à travers une plaquette qui s'appelle « Ce que nous voulons » et enfin une double plaquette « Ce que nous voulons et ce que nous ferons ». Donc oui, la spécificité du courant que nous incarnons, c'est d'abord en effet que c'est un vieux courant. On n'est pas regroupé autour d'une personnalité qui a des velléités de candidature à l'élection présidentielle ou qui voudrait être le président de leur république. Réellement, nous sommes ces maillons, ces chaînes historiques avec une doctrine très précise. On n'est pas en recherche. Une doctrine héritée, comme je disais, de la contre-révolution, puis ensuite enrichie par des maîtres à penser comme Drummond, comme Barrès, comme Maurras. Cette doctrine qui a été formulée d'ailleurs à la demande de Maurice Barrès par Charles Maurras, au moment de cette époque, de cette fin du 19e, début du 20e siècle, très riche, notamment après et avec l'affaire Dreyfus qui a profondément divisé la nation, d'ailleurs un petit peu comme aujourd'hui. Hier nous avions les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards, aujourd'hui nous avons les virusards et les antivirusards. Enfin, c'est une petite un petit clin d'œil. Et donc doctrine enrichie ensuite par des écrivains comme Maurice Bardèche, comme Henri Coston. Et toute cette école nationaliste dont la particularité est que en permanence nous allons, nous voulons, nous cherchons la cause du mal sans tenir aux conséquences. La politique en France et en Occident est comme un théâtre de marionnettes. En fait, il faut aller voir en coulisses pour débusquer les marionnettistes qui manipulent tous ces hommes politiques, prétendument de droite et de gauche, mais défendant un seul parti. Donc ça, c'est la méthode des nationalistes. Aujourd'hui, si vous voulez, sans faire de discrimination, comme tu dis, les nationalistes sont sur la ligne de crête entre la dissidence et les identitaires. C'est-à-dire que là où les dissidents s'opposent à l'idéologie dominante que moi j'ai qualifiée de judapo, de judaïsme politique, sans avoir de conscience raciale, et de l'autre côté les identitaires qui ont une conscience raciale identitaire mais qui n'ont pas vu ou ne veulent pas voir le problème du judapo qui est l'idéologie du mondialisme, du système dominant, eh bien nous sommes le parfait synthèse et équilibre entre ces deux pôles, dissidents et identitaires, je dirais. Voilà un petit peu résumé les nationalistes, le courant nationaliste aujourd'hui.
Très bien, merci beaucoup. Alors, juste avant de continuer, donc je rappelle le format de ce salon vocal. Pendant une demi-heure, nous nous entretenons avec l'invité, ce soir Yvan Benedetti, et à l'issue, vous pourrez tous poser vos questions et intervenir en direct. Ce soir, je précise dès le début, puisqu'on a toujours des personnes qui, par souci d'anonymat ou peut-être simplement parce qu'elles n'osent pas, ne posent pas de questions, n'hésitez pas à les poser par écrit sous la dernière publication sur la page, et nous prendrons les questions écrites si les intervenants en direct nous laissent le temps de le faire, puisque si le débat est bien lancé, on n'aura peut-être pas le temps de passer par l'écrit. Voilà. Donc merci pour cette présentation, Yvan. Dans ce cadre-là, quotidiennement, comment ça se traduit? Parce qu'on sait que depuis 5 ans à peu près, à la louche, hein, il y a de nombreux courants qui apparaissent, qui ne sont présents qu'en ligne. Des influenceurs FAF qui, de près ou de loin, sur une ligne plutôt identitaire, sur une ligne plutôt en effet racialiste, sur d'autres, sur des questions de remigration ou même d'émigration des patriotes vers les pays de l'Est, pourquoi pas, comme certains le proposent. Voilà, on a tous ces courants-là qui focalisent beaucoup de gens aujourd'hui sur Internet qui pensent trouver une doctrine, qui pensent trouver une forme de combat à travers ces idéologues en ligne. Chez les nationalistes, vous êtes présent sur le terrain Internet, évidemment, comme tout le monde, mais vous avez aussi le mérite d'être véritablement sur le terrain. Comment se traduit véritablement votre engagement au quotidien ?
C'est indispensable d'être sur le terrain. La pensée, l'action sont indissociables. La pensée précède l'action dans toute action humaine. Il en va ainsi, hein, par exemple, pour l'émission de ce soir, il faut penser, savoir à quelle heure se déroule la réunion, où se déroule la réunion, comment y accéder techniquement, et puis après on agit. On agit, on rejoint la réunion. Et en matière politique, c'est indispensable. Il y a de très, très belles pages de Drieux-La Rochelle sur la pensée et l'action. Et je pense que bon, il y a un peu un centre de gravité qui dérive vers la communication. Et le problème qui inhérent à cela, c'est-à-dire que on se concentre sur la forme en abandonnant le fond. C'est un peu le travers de cette époque, d'autant plus que mener le combat à travers les réseaux sociaux, c'est indispensable, hein, il faut occuper l'espace, il faut mener le combat de la communication, mais il y a des dérives importantes, notamment à travers la société de spectacle, à travers l'individualisme, c'est-à-dire que malheureusement, les gens ne s'engagent plus aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les syndicats, plus personne dans les associations, à part si on y trouve un intérêt, plus personne dans les mouvements politiques. C'est vraiment dommageable parce que il faut s'inscrire dans les réalités du terrain et on s'en aperçoit aujourd'hui, ou avec la censure sur les réseaux sociaux, puisque les grandes plateformes n'hésitent pas à censurer même un président des États-Unis en exercice. Et là, j'ai vu qu'ils avaient, Facebook a reconduit l'interdiction, la censure de Trump. Nous avons aussi connu, et on connaît les censures de membres importants de la dissidence. Regardez comme Dieudonné a disparu du paysage comique français. Donc c'est important, très important de s'inscrire dans le militantisme et dans le combat. Parce que la pensée, eh bien, elle est légitimée par l'action. Si on se contente de penser ou de communiquer, on perd le sens des réalités souvent. Et si on ne fait que militer, que bouger, on sombre dans l'activisme. L'activisme, c'est comme la mouche sur la vitre, hein, ça s'agite beaucoup, ça fait beaucoup de bruit, puis quand vous revenez deux jours après, la mouche elle est toute morte, toute sèche au pied de la porte. Donc tout cela pour dire que la spécificité des nationalistes, c'est que nous menons un combat militant dans le au quotidien. Alors notamment sous deux formes. La première, c'est dans les commémorations. Alors beaucoup considèrent que c'est inutile. Beaucoup d'ailleurs se moquent un peu du fait que on peut se retrouver à certains moments dans les cimetières, puisqu'on a des commémorations annuelles, que ce soit le 6 février, où nous célébrons la haute figure de Robert Brasillach, qui a été assassiné le 6 février 1945. Donc le 6 février est une date importante pour nous. Ou le 23 juillet, comme cette année, où nous allons nous retrouver à Lisieux sur la tombe du maréchal Pétain. Ou même à l'étranger, puisque nous avons, c'est la spécificité aussi, je dirais, des nationalistes, c'est d'avoir des contacts dans toute l'Europe et même au-delà, et de commémorer les grandes dates et les grandes figures du nationalisme en Europe, que ce soit José Antonio Primo de Rivera en Espagne, que ce soit Codreanu en Roumanie et bien d'autres. Vous savez, le combat et la communauté humaine, la nation, c'est comme un arbre et il faut des racines profondes. Et pour avoir des branches qui montent haut dans le ciel, il faut justement que ces racines soient profondes. Et le lien qui fait entre le lien qui fait le enfin ce qui fait le lien, pardon, entre les racines et la branche, c'est la sève. Et par projection, pour nous, dans notre combat, dans notre civilisation, ce qui fait le lien justement entre les racines et le présent, face à l'avenir, ça s'appelle la tradition. Et c'est ce qu'ont très bien compris nos ennemis, puisqu'ils ont coupé ce fil qui unissait le passé au présent et vers l'avenir, ce qui fait que les branches de la nation, les branches de notre civilisation, les branches de l'Occident, peu à peu, se meurent comme asséchées. Donc c'est important d'avoir des racines profondes. Il faut s'inscrire dans une tradition. On ne peut pas, nous, en tant que nationalistes, adopter le schéma communiste du passé, faisons table rase, ou des mondialistes du grand reset. Pourtant, certains auraient la tentation de faire le grand reset du nationalisme en France et d'oublier d'où nous venons. Nous pouvons mener un combat efficace que si nous sommes fidèles au passé, tournés vers l'avenir, bien évidemment. Il y a un champ de l'œuvre, un champ nationaliste qui dit vers l'avenir, fidèle au passé. Mais il faut avoir des racines profondes. C'est une de notre particularité. C'est pour cela que nous honorons le maréchal Pétain, non pas parce que nous sommes nostalgiques et entièrement tournés vers le passé, comme des anciens combattants. D'ailleurs, nostalgie de l'époque de l'État français avec un pays qui s'effondre suite à une défaite militaire, ses bateaux, enfin ses navires détruits par l'armée anglaise, des millions de jeunes Français dans les camps allemands, un pays divisé qui après connaît la guerre civile. Non, nous ne sommes pas nostalgiques de cette époque-là. Mais ce que nous respectons dans le maréchal Pétain et au-delà de la grande figure du héros français né à Verdun, c'est que c'est la seule tentative de rupture radicale d'avec le système hérité de 1789. Et c'est pour ça que nos ennemis lui en veulent, que nos ennemis l'ont exilé sur cette île Dieu au fort de la Pierre Levée. Là, ils l'ont jeté dans un cul de basse fosse, merci De Gaulle, et ont refusé même à ce qu'il soit enterré, selon ses dernières volontés, à Douaumont, parmi ses poilus, donc à Verdun. C'est important de se souvenir et de tirer les leçons des époques passées et des échecs, que ce soit le 6 février 1984, qui a été, 1934, pardon, qui a été une révolte stérile, que ce soit l'État français du maréchal, et les bons aspects, les bonnes choses héritées de l'État français, et notamment les principes de la communauté qui sont des principes fondateurs qui s'opposent à la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est pour cela que nous nous retrouvons à travers cette grande figure. Nous avons aussi fait un rassemblement récemment pour le 19 mars pour condamner la célébration du 19 mars 62, qui est une date officielle, et vous remarquerez que le système, lui, célèbre les dates qui sont importantes pour eux, pour la fondation de ce qu'ils sont, pour la fondation de leur action. 19 mars 62, c'est prétendument la fin de la guerre d'Algérie. En fait, ils célèbrent l'Algérie indépendante, puisque après 19 mars 62, les accords d'Évian, il y a eu des massacres de harkis abandonnés, merci De Gaulle, Il y a eu des massacres de Français d'Algérie, notamment des femmes disparues, dont on ne sait ce qu'elles sont devenues. Donc nous nous sommes mobilisés pour dénoncer cette fausse date du 19 mars 62 qui a été imposée, bien évidemment, par les associations communisantes des anciens combattants d'Algérie. Et ce qu'il faut tirer là aussi, c'est pas par nostalgie de l'Algérie de grand-papa que nous engageons sur ce terrain-là, mais parce que, en fait, la guerre d'Algérie n'est pas terminée. Aujourd'hui, elle a lieu et on le voit quotidiennement avec ces hordes de barbares qui sont chez nous suite à une immigration sans frein qui d'ailleurs s'est accélérée au moment de l'indépendance de l'Algérie. Hein. Eh bien, nous sommes confrontés, comme en Algérie, à deux ennemis. L'ennemi des étrangers qui veulent nous voler notre terre, hein, puisque d'une immigration de travail, elle a évolué vers une immigration de peuplement, ne serait-ce d'ailleurs qu'à voir les constructions nombreuses de mosquées qui, à travers cela, ils viennent bien nous dire que cette terre n'est plus à nous, mais que maintenant elle est à eux. Donc, cette horde d'étrangers ou issus d'immigration qui veut nous voler notre pays, nous voler notre histoire, et ce pouvoir qui en est complice, hein, puisque si nous sommes assis aujourd'hui sur une poudrière, c'est parce que nous avons tous ces immigrés et ces enfants d'immigrés qui aujourd'hui sont excités par le pouvoir en place à travers la politique de repentance, notamment le champion de la repentance, Macron, qui a osé dire que la colonisation a été un crime contre l'humanité. Donc on voudrait créer les conditions d'une guerre ethnique et raciale. On s'y prendait pas autrement que de faire venir des populations déracinées et de leur expliquer que nous sommes responsables de tous les maux, que ce soit l'esclavage, que ce soit la colonisation, que ce soit la Shoah, je ne sais quoi encore. Voilà. Donc, c'est important d'être tourné vers le passé, de tirer les leçons du passé, de commémorer les dates importantes qui font ce que nous sommes collectivement et qui sont le symbole du combat que nous menons aujourd'hui. Et le 9 mai, nous serons à la statue de Jeanne d'Arc pour commémorer Jeanne d'Arc, qui est le plus bel exemple de cet esprit français et qui d'ailleurs est un modèle aujourd'hui, hein, puisque au moment de notre histoire où le pays connaît de grandes misères, des bandits de grands chemins, une épidémie d'ailleurs, on peut s'en faire d'anachronisme parce que ça n'a pas de sens, mais comparer les époques d'ailleurs, les époques de Jeanne et l'époque d'aujourd'hui, hein, puisque la France avait été frappée par une épidémie de peste, il y avait deux jusqu'à trois papes, l'Église divisée, regardez aujourd'hui les problèmes que nous connaissons dans l'Église, un pays occupé par l'étranger, livré aux guerres civiles, et après le funeste traité de Troyes, qui pour moi connaît un équivalent aujourd'hui avec le traité de Maastricht, hein, eh bien une fille de notre peuple qui n'était jamais montée à cheval, n'avait jamais porté l'épée, eh bien s'est transformée en chef militante pour rencontrer le dauphin, en perdition, en doute, en chef politique en allant se faire sacrer à Reims, et en chef militaire en délivrant Orléans. Donc aujourd'hui, c'est un bel exemple, un bon modèle. nous rétablirons la croix et la couronne, je dirais, par la force de l'épée. Hein. Avec cette pensée, cette citation de Jeanne qui doit nous emplir tout entier, les gendarmes combattront et Dieu donnera la victoire. Voilà. Donc, nous avons à nous mobiliser aujourd'hui, fidèles au passé. Alors, c'est pas, nous ne sommes pas entièrement tournés vers les commémorations, puisque bien évidemment, nous, comme un mouvement politique traditionnel, si vous voulez, nous menons un combat quotidien à travers des actions militantes. Et c'est important de s'inscrire dans l'action, justement. C'est vrai que, je prends le collage d'affiches, par exemple, un visuel sur Internet est vu 100 fois, 1000 fois plus qu'une affiche que vous collez dans la rue. Par contre, allez se mobiliser, affronter les dangers. Parce que quand on colle une affiche comme le France aux Français, par exemple, hein, ou Maître chez nous, eh bien, c'est pas sans conséquence. Eh bien, affronter les dangers, se mobiliser, apprendre à se connaître, à agir en commun pour coller une affiche dans nos rues, ça a un autre poids qu'un visuel qu'on lance et qui court sur Internet, si vous voulez. Notamment, c'est plus important pour ceux qui collent l'affiche, mais pour ceux qui la voient aussi, parce que le gars seul dans son quartier qui voit une affiche nationaliste collée sur un mur, il se dit « je ne suis pas seul ». Dans le quartier, je ne suis pas seul. Ici, il y a d'autres nationalistes, il y a d'autres nationalistes comme moi. Donc, c'est très, très important de continuer malgré les difficultés. Bien évidemment, c'est plus facile de monter une chaîne YouTube avant censure et de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est indispensable. Hein. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est un outil remarquable. D'ailleurs, je tiens à te remercier, à vous remercier de me donner la parole. Je suis au quotidien ta chaîne et votre chaîne, là, Chronique la chute d'une civilisation, parce que c'est au carrefour de plusieurs courants militants. Je trouve que c'est très, très intéressant et les mises au point militantes ou idéologiques sont toujours très, très pertinentes. Donc, je suis heureux de passer sur votre antenne, c'est pour ça que j'ai accepté. Mais je voudrais insister là-dessus, le combat militant sur le terrain est indissociable du combat sur les réseaux sociaux, indissociable d'une pensée. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique. Alors, on a une longue expérience. Moi, j'ai été formé par toute cette génération de militants qui avaient connu la guerre d'Algérie, notamment l'OAS où le combat n'était pas électoral mais était les armes à la main. Ces militants-là avaient eux-mêmes connu cette grande époque du nationalisme, des nationalismes en Europe et des fascismes. Donc, si vous voulez, c'est une manière très empirique, c'est une histoire qui se transmet, c'est un flambeau qui se transmet et une expérience qui se communique. Et ça, c'est indispensable. L'expérience de l'action, on ne peut pas la connaître d'abord sans mener le combat militant physiquement et sans rencontrer ceux qui nous ont précédés. C'est vraiment, moi j'ai beaucoup beaucoup appris de Pierre Sidos et de cette génération, notamment ses frères, de cette génération qui s'était engagée au moment de l'OAS. C'est très intéressant. Voilà.
Comme, du coup, je vais rebondir là-dessus parce que, justement, je pense que tu as déjà répondu à une bonne partie de la question que je voulais te poser. La dernière question avant de passer la parole à nos invités, la question qui généralement est la question qui fâche, je vais l'introduire par un mot de Stéphane Picard qui intervient par écrit, qui cite Charles Maurras, nous disant « Le désespoir en politique est une sottise absolue », en commentant, en nous disant qu'à contrario, le nationalisme est une espérance, et Yvan Benetti en est le plus digne et le plus authentique représentant. Sur ça, donc la question qui fâche, du coup j'enchaîne, beaucoup sur sur Internet, sur donc justement de ces e-militants, de ces militants un peu déconnectés de, du terrain, qui sont un peu, bah, comme tu le dis en fait, à bougonner dans leur coin, à subir un peu leur journée au quotidien, à voir ce qu'ils voient et à sentir ce qu'ils sentent et à entendre ce qu'ils entendent, se disent que tout est perdu, que il faut en effet écouter. Je suis pas là pour jeter la pierre à Conversano ce soir, mais écouter Conversano. Quitter l'Europe, aller s'établir en Roumanie, en Ukraine, en Hongrie, commencer quelque chose ailleurs avec pour sauvegarder le peu de civilisation européenne qui nous reste, et qu'au final le combat sur le territoire français est perdu. Comme en fait, en effet, tu parlais d'apprendre de nos anciens. En fait, tout comme chaque génération, par exemple, comme en termes militaires, a bénéficié de l'expérience de ses anciens, on a une génération un peu étrange de la guerre froide et du début des années jusqu'au début des années 90, une génération de militaires qui est une des seules générations militaires françaises qui n'a pas vraiment connu le feu et qui a été une espèce de génération sans opération, sans expérience à passer à ces générations futures. Est-ce que notre génération de militants aujourd'hui a encore raison d'espérer et aura encore quelque chose à transmettre à la future génération de militants?
Alors, je viens de parler de Jeanne, qui est le plus bel, beau modèle d'espérance. C'est pour ça qu'il faut l'honorer, il faut la louer, il faut la célébrer. C'est certain qu'aujourd'hui, le combat à l'heure est difficile. De France même, la France, elle est dans les cimetières et dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, elle, dans les faits, elle n'existe plus. Le pays, c'est un conglomérat de communautés, de tribus, d'individus liés par, l'intérêt particulier. Et en aucun cas par une unité de destin. José Antonio donnait cette belle définition de la nation. J'ai parlé de l'Espagne, mais ça vaut pour toutes les nations historiques, notamment en Europe. Un destin j'ai oublié ma pensée là de José Antonio. La nation, une unité de destin dans l'universel, pardon. Une unité de destin dans l'universel. Voilà. Donc, la France, c'est certain aujourd'hui, et on n'en a plus que le souvenir. Mais tout peut basculer très vite. Aujourd'hui, ce que nous faisons, en effet, c'est souffler sur la braise, sur cette petite braise qui reste. Notamment cette braise qui lui, par. Le souvenir de ce passé prestigieux, parce que la France a été vraiment une grande nation qui a illuminé le monde, qui était présent dans le monde entier et qui marque encore les esprits, parce que quand vous voyagez, ou pour ceux qui voyagent, les étrangers qui ne connaissent pas la France en parlent encore avec une certaine émotion parce que ils connaissent, enfin je pense à ceux qui connaissent la littérature, la musique, enfin toute cette civilisation à laquelle a contribué la France, et puis même le français, la langue, hein, parce qu'on était présent sur tous les continents dans le monde. Donc c'est certain qu'aujourd'hui, si on s'en tient au quotidien, aux réalités, et on peut sombrer dans le désespoir. À ça, moi, j'oppose l'espérance qui se nourrit du combat militant, justement, et du triomphe de la volonté. Je vais vous dire un petit peu, moi, comment, depuis 35 ans que je combats, on a connu très peu de victoires, il y en a eu quelques-unes, mais très peu, comment je me maintiens autrement qu'à travers des bons livres que je peux ouvrir au moment où les temps sont difficiles, où je passe des moments difficiles, comme par exemple Les âmes qui brûlent de Léon de Grelle. Eh bien, je considère mes journées comme un combat et comme une guerre. Et le propre des nationalistes, c'est de vouloir sortir du système mentalement. Il faut commencer par là. On ne va pas faire de grandes choses. On ne va pas changer le cours des événements si on ne commence pas par sortir nous-mêmes du système. c'est la première des révolutions, puisque nous sommes des révolutionnaires. Pensons que le système n'est pas amendable. Hein, c'est ce qui fait aussi notre particularité parmi d'autres mouvements qui mènent un combat souverainiste, patriotique ou même nationaliste. C'est que nous sommes révolutionnaires, voulons faire triompher la révolution nationale basée sur le travail, la famille, la patrie. Au moment où on n'a plus de travail, plus de famille et plus de patrie, on voit les désastres que ça crée aujourd'hui. Eh bien, c'est de prendre sa journée comme un combat. Et au soir de cette journée, de considérer que c'est une victoire quand on n'a pas été happé par le système et qu'on continue à faire vivre notre idéal au quotidien et autour de nous. Et ce sont ces petites victoires quotidiennes qui nous permettent justement de tenir. Et si chacun, de son côté, par sa volonté, connaît ces victoires quotidiennes, c'est l'addition de toutes ces victoires qui auront une chance d'avoir une prise sur les événements. Et je vous dirai, depuis 35 ans que je combats, je pense que la situation d'un changement profond n'a jamais été aussi favorable. Avant, nous étions cantonnés dans des catacombes de l'histoire. Nous avions prise sur peu de choses, puisque Internet n'existait pas. Nous éditions quelques fanzines ou quelques journaux très modestes. Le système était tout puissant. Je pense, je l'ai dit, depuis la révolte des Gilets jaunes, nous sommes rentrés dans une période révolutionnaire. Période révolutionnaire, c'est trois étapes. La première, c'est la désintégration du système. C'est plus ou moins lent, ça connaît des pics, des soubresauts, des périodes plus calmes, mais le système se désagrège. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Regardez, il n'a plus de prise sur les événements. Alors, à certains moments, il semble perdre pied, mais comme un chat, il retombe toujours sur ses pattes. Mais il va y avoir un jour où, ça sera la crise de trop et que le système va collapser, va se désintégrer, comme un peu l'Union soviétique. Voilà. Regardez aujourd'hui, je lisais un petit peu Darmanin qui roulait des mécaniques. Prenons exemple sur Sarkozy et indiquant qu'il allait mener la guerre aux dealers. Et je me disais, Darmanin déclare la guerre aux dealers comme Castex. Je ne sais pas si vous avez vu son hommage à cette pauvre dame qui a été égorgée, qui travaillait au commissariat de Rambouillet, je crois. Castex avait déclaré, dans cet hommage, a déclaré la guerre à l'islamisme, au terrorisme islamiste, et comme Macron avait déclaré la guerre au virus. Donc ces gens-là, vous savez, c'est les mots de Maurras, ce sont des mots, M-O-T-S, des mots, M-A-U-X, démocratie. Sont des hypocrites cyniques qui sont dépassés par les événements. Donc, la situation est difficile parce qu'elle est grave. On est un peu dans cette maison qui s'effondre, et bien évidemment, comme nous sommes dedans, on prend des cailloux sur la tête. Mais le fait de prendre des cailloux sur la tête, pour moi, est signe annonciateur de possibilité demain de pouvoir changer les choses. Et donc, je parlais d'une révolution et des trois étapes. La première, c'est la désintégration du système, mais ce qui est très important dans la deuxième étape, nous n'en sommes pas encore, c'est de créer cette minorité révolutionnaire qui va porter un ordre nouveau. Parce qu'une révolution, c'est ça. Une révolution, c'est pas… On se méprend souvent. Une révolution, on pense que c'est la Kalachnikov, c'est la batte de baseball, on y va, on casse tout, on tue tout le monde. C'est pas ça, une révolution. Une révolution, c'est le triomphe de la volonté. C'est la volonté d'une opposition qui veut imposer un ordre nouveau à un système qui, lui, a une volonté de défendre l'ordre établi. Et la réussite d'une révolution, c'est la croyance du système dominant qui s'effondre et une croyance nouvelle qui naît. Et nous avons, nous, à porter ça, à faire vivre. Alors, nous sommes dans cette étape difficile de désintégration du système, très difficile, mais dans cette deuxième étape de constitution d'une minorité historique, de ces minorités qui font l'histoire, parce que c'est jamais le grand troupeau des bêtes à voter, c'est jamais le grand troupeau des moutons qui guide le berger, c'est le berger, et nous sommes des bergers, nous avons l'âme des bergers qui guide des troupeaux de moutons, même de 200, 300, 500 têtes, c'est un berger qui guide 500 têtes de moutons, et bien nous sommes de cela, et nous avons à constituer, nous préparer, nous avons à nous préparer par des réseaux, par le fait qu'il faut apprendre à se connaître personnellement, connaître ceux qui on mène le combat. Eh bien, il faut se préparer pour constituer cette minorité révolutionnaire. Et ce qui est très, très important, pour ceux qui seraient tentés de tout lâcher, de sombrer dans une dépression politique, je dirais, eh bien, ce qui est très, très important, c'est que être dissident, c'est bien, mais être dissident, c'est être en rupture avec le système en place. Ça ne suffit pas. Il faut porter un ordre nouveau. C'est pour ça que nous avons une doctrine. Nous avons une espérance que nous nourrissons à travers le combat. Nous avons des fêtes, nous célébrons. Et il faut constituer ce que j'appelle les corps intermédiaires de la révolution nationale. C'est-à-dire que la révolution nationale ne va pas s'imposer d'elle-même. Nous voulons une société basée sur... Nous voulons une société organique. C'est la base de la doctrine nationaliste. C'est-à-dire, c'est un peu comme un corps humain avec différents organes qui a chacun sa fonction, qui fonctionne indépendamment, mais géré par le cerveau. Et chaque organe ne fait pas ou fait ce que ne fait pas l'organe d'à côté. Eh bien, dans une société organique, une société qui respecte, une nation qui respecte la loi naturelle, eh bien, il y a des corps intermédiaires avec ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire que le corps intermédiaire supérieur ne fait que ce que le corps intermédiaire inférieur ne fait pas, et on en arrive à un système équilibré qu'a bien résumé Charles Maurras, de liberté en bas, puisque l'individu évolue dans les divers corps intermédiaires sans qu'il soit entravé ou contraint par un État envahissant comme c'est le cas aujourd'hui, notamment administratif, légal, législatif, et avec une autorité en haut qui applique les principes fondateurs des lois naturelles, les principes nationalistes, comme le droit national est supérieur au droit étranger, primauté à l'autorité sur l'élection, primauté à la beauté sur l'utilité, ainsi, etc. etc. Et puis l'État aussi qui est là pour vérifier que toute action des corps intermédiaires ou toute action d'une communauté humaine intermédiaire, eh bien, se fait selon les principes du bien commun. Et c'est pour ça que nous sommes pour la liberté d'entreprendre, notamment en économie, mais avec le principe du bien commun, le principe du respect collectif, le respect de tous. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est de apprendre à se connaître, se former et créer des corps intermédiaires, c'est-à-dire des corps constitués, des communautés humaines qui vivent selon nos principes à nous et pas les principes de ce système complètement pourri, décadent, vermoulu et en pleine désintégration. Alors, qu'est-ce que j'entends par corps intermédiaire de la Révolution nationale ? Ça peut se faire petitement, il faut commencer par là, par une famille de tradition, par les écoles même. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'à travers cette loi contre le prétendu séparatisme, eh bien en fait, comme toujours, c'est une loi qui va s'appliquer contre nous. Hein, et notamment l'école à la maison et l'école hors contrat. Mais il faut persévérer. C'est un corps intermédiaire, ce que j'appelle un corps intermédiaire de la Révolution nationale, c'est le mouvement politique, c'est la chaîne Telegram, c'est ces associations, ces associations. Par exemple, nous menons une action pour rétablir des croix qui ont été démantelées et coupées. Des croix, vous savez que selon la tradition, eh bien, sur les hauts sommets, les plus hauts sommets, les sommets importants, sont plantées des croix. Et notamment dans les Pyrénées orientales, il y a un militant communiste qui est photographe à l'Humanité, qui est un fils de combattants rouges espagnols. Donc, vous voyez que le passé est important. Hein. Eh bien, au nom de la laïcité, il a scié deux croix sur des monts symboliques et les a jetées dans le vide. Eh bien, on est monté et on a rétabli une croix. Voilà, tout ça, ce sont des actions qui, je dirais, qui font vivre les corps intermédiaires de la Révolution nationale. Et c'est très, très important, très, très important.
Alors, merci beaucoup, Yvan, pour cette intervention très, très, très complète sur l'espoir et l'importance de l'action militante. On va enchaîner sur les questions parce qu'on a pris un peu de retard, mais de toute façon on n'a pas de contrainte de temps sur ce canal. Je crois que Fred voulait intervenir. Est-ce que Fred est toujours avec nous? Alors, en attendant, les autres, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Là, on a 69 participants, on a quand même un record relatif sur cette chaîne. Je pense que ce soir on risque d'avoir des interactions très intéressantes. Là, on a NTN qui veut intervenir. On va passer la parole à NTN dès maintenant. NTN, c'est à toi. NTN une fois.
Est-ce que ça fonctionne ?
Très bien, c'est bon, ça fonctionne, c'est parfait.
Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question sur. Vous avez beaucoup parlé du rôle de l'histoire. Je suis vraiment tout à fait d'accord. Et je voulais savoir si, dans cette histoire, à quel moment vous percevez qu'on perd ce sens de la nation ? Et à quel moment on a commencé à prendre un pli dangereux à quel moment le venin est entré ?
Alors, merci. De votre présence, merci de l'intervention. Oui, l'histoire, c'est important. Alors, je ne voudrais pas qu'on ait une image déformée du combat que nous menons. Hein. C'est vraiment vers l'avenir, fidèle au passé, mais il faut être tourné vers l'avenir. Mais l'histoire est très importante. Regardez l'action des historiens communistes dans l'histoire pour réécrire les grandes pages de notre nation. Alors, tout au long de l'histoire, d'ailleurs c'est intéressant quand on se forme politiquement à la doctrine, de reprendre l'histoire de France et de se dire, ah ben alors là, tiens, en tant que nationaliste, je serais de quel côté ? Je serais de ce côté-là ou de ce côté-là, ou plutôt j'aurais essayé de pacifier les choses. C'est un exercice qui est très utile quand on veut se former à la doctrine. Mais je pense que pour rester dans l'histoire récente, j'ai parlé de 1789, ça a été une catastrophe terrible, 89, parce que ça a mis cul par-dessus tête l'ancien régime basé sur trois piliers qui étaient le prêtre, le soldat et le paysan. Ces trois piliers se sont substitués l'esprit bourgeois qui triomphe aujourd'hui, qui a été dénoncé par Drummond d'ailleurs, et qui a permis au judaïsme politique de prospérer. Ensuite, une date importante, c'est Nuremberg. Nuremberg, et je vous renvoie au livre fondateur de Bardèche, Maurice Bardèche, Nuremberg ou la Terre promise, parce que cette Terre promise qui a été promise à Nuremberg, eh bien nous la vivons aujourd'hui et au quotidien. Et ensuite, il y a les années 60 qui ont été terribles, notamment par, j'en ai parlé, l'effondrement de notre empire colonial, la Grande France, parce que la France, la particularité de notre pays, c'est qu'il a deux zones d'action. Bien évidemment, nous sommes européens, donc nous sommes tournés vers l'Europe. c'est un des lieux importants géopolitiquement d'action. Mais nous avons un empire qui est le reliquat d'un grand empire, la Grande France, mais qui fait encore de nous le deuxième pays en termes de frontières maritimes. Donc ça vous montre un petit peu, et il ne faut pas espérer de la démocratie élective d'aujourd'hui qui vit à 5 ans près hein, la durée d'un mandat pour mener et pour lancer une grande politique maritime comme elle devrait être.
Oui, on a déjà commencé d'ailleurs les négociations pour éventuellement rétrocéder les îles éparses à Madagascar.
Ah oui, mais bonjour quoi. C'est le reniement de toute façon sur toute la ligne, il ne faut pas s'en étonner. Hein. Les digues ont sauté, souvent on dit on va atteindre le fond, Pierre Sidos disait toujours mais il n'y a plus de fond, vous attendez pas à atteindre le fond, il n'y a plus de fond, donc les digues ont cédé. Donc dans les années 60 aussi, ce qui a été terrible, c'est le Concile Vatican II. Parce que fonde un élément fondateur de la France, eh bien, c'est le baptême de Clovis, hein, c'est le catholicisme, c'est la chrétienté. D'ailleurs, nous battons nous pour rendre à la France à son peuple, hein, qui a été volé parce qu'on nous a volé notre héritage, hein, l'oligarchie nous a volé notre héritage. Rendra l'Europe à sa race, hein, qui est menacée par l'invasion migratoire, l'avortement ethnicide et puis la repentance antiraciste, j'en ai parlé, mais il faut aussi rendre la chrétienté à son Dieu, qui est détrôné depuis le Concile Vatican II. Parce que j'ai fixé une feuille de route pour les nationalistes, c'est qu'il faut un combat total, global, mondial. C'est-à-dire total, temporel, et spirituel, parce que nos ennemis sont totalitaires. Hein, temporel, c'est la conquête des esprits, et il ne faut pas commencer par la conquête des votes électoraux, il faut commencer par la conquête des esprits, qui est beaucoup plus solide qu'un vote électoral. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mener le combat électoral, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais tout commence par la conquête des esprits. Un combat spirituel par la révolution des âmes, parce que, justement, nous sommes non seulement une identité, mais nous sommes aussi une personnalité. C'est pour ça que je pense que les identitaires ne font que la moitié du chemin. Il faut défendre notre identité, bien évidemment, mais l'identité, c'est ce que l'on voit. Hein, un individu, l'identité, ce sont les couleurs de cheveux, la couleur des yeux, la peau, la couleur de peau, la taille, etc. Mais ça ne définit pas la personnalité. Et il en va de même pour une nation. Une nation, elle a une identité, mais elle a une personnalité, elle a une âme. Et donc, il faut cette révolution des âmes, c'est indispensable. D'ailleurs, je dirais à nos amis identitaires, et j'en connais beaucoup, j'ai beaucoup de respect pour leur combat. J'ai dénoncé l'interdiction, la dissolution des générations identitaires, ce qui est inadmissible. J'eusse aimé qu'ils eussent le même soutien vis-à-vis de nous, mais bon, je ne leur jetterai pas la pierre. J'espère qu'ils ont ouvert les yeux et qu'ils ont compris que prendre un avocat du système n'allait pas leur sauver le mouvement, puisque en plus la dissolution a été maintenue, confirmée devant le Conseil d'État. Être identitaire, c'est mener qu'une partie du combat. D'ailleurs, je ferai remarquer que toute communauté est identitaire, hein, même la communauté LGBT. La communauté LGBT est très identitaire. Donc, quand vous dites que je suis identitaire, ça ne définit pas grand-chose. Alors que quand vous dites je suis nationaliste, ça, c'est déjà une définition en elle-même. Être nationaliste au service de la nation. Être identitaire, je pose la question, quelle est la doctrine qui est équivalente au combat identitaire ? La doctrine nationaliste, c'est le nationalisme. La doctrine de l'identitaire, c'est quoi? C'est l'identitarisme, c'est quoi? Ça n'existe pas. On n'arrive pas à la définir. Preuve que ce n'est pas cohérent, ce n'est pas une unité de doctrine, si vous voulez. C'est un courant d'ailleurs assez récent qui nous vient de Belgique, du mouvement flamand. Et d'ailleurs, ça nous vient d'une nation qui est une nation artificielle et qui ne cesse d'ailleurs de se diviser. Donc, je ferme la parenthèse, mais ce que nous avons à mener, c'est ce combat total. C'est un combat global de conquête de l'État par le triomphe justement de la Révolution nationale et la conquête de Rome avec le rétablissement de la tradition, parce que le rétablissement des nations historiques ne se fera pas sans le rétablissement de la tradition à Rome, et le rétablissement de la tradition à Rome ne se fera pas sans le rétablissement des nations historiques. C'est imbriqué, si vous voulez. Et puis, c'est un combat mondial, ce qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que nous voyageons souvent pour rencontrer des camarades nationalistes en Europe et ailleurs, parce que ce combat, il est mondial. Il y a une ligne de fracture qui traverse toute la planète, puisque notre ennemi est le mondialisme. Notre ennemi, vous pensez bien que Soros ne s'arrête pas aux frontières des États-Unis ou de sa Hongrie natale. Donc, il y a un combat mondial à mener pour rétablir Rome comme capitale de civilisation à laquelle le mondialisme a substitué Jérusalem. C'est pour ça que le projet sioniste est très très important pour eux, confère Attali, hein. C'est pas du complotisme que je fais là. Hein. Tout est, ils ont tout écrit, hein. Ils ont tout dit. Il suffit de les lire. Notamment, il y a un livre qui résume tout cela. C'est un livre du camarade Rissen qui s'appelle Les espérances planétariennes. C'est son premier livre où il a beaucoup, beaucoup lu les mondialistes et il en a extrait les citations les plus pertinentes, je dirais, dans le combat que nous menons. Donc voilà, pour répondre à la question de Fred, je crois que c'était, les trois dates importantes, c'est 1789, c'est 1945, c'est 1962, et puis je dirais aussi, il y a en annexe une date très importante, c'est Gettysburg, parce que, eh bien…
comme le disait Dominique Vénère,
ouais. Oui, l'Amérique est morte à Gettysburg, même si ça n'a pas été une défaite définitive pour le Sud. Mais à partir de Gettysburg, le Sud américain n'a cessé de reculer. Donc, je pense que je rajouterai aussi Gettysburg. Mais j'en profite d'ailleurs pour dire que, vous savez, là, il ne faut compter que sur nous-mêmes. Parce que certains nous disent qu'on sera sauvé par les chars de Poutine ou on sera sauvé par les tweets de Trump, notamment quand il était encore sur Twitter. Mais non, ça viendra de nous-mêmes et je pense que la France sera moteur. Parce que ceux qui disent que la France est morte, en tant que nation historique, hein, s'entend. Eh bien, je leur répondrai simplement, regardez, la première réaction, justement, la réaction la plus forte, Concile Vatican II, eh bien, elle est venue d'un évêque français qui a planté sa croix et qui a dit non, moi, je défends la chrétienté, le catéchisme de toujours, c'est Monseigneur Lefebvre. Ensuite, on a eu le premier mouvement populiste d'ampleur, et pour ceux qui ont connu cette époque, c'était pas rien, c'est Jean-Marie Le Pen, la première réaction électorale importante en Europe, qui a précédé toutes celles qu'on connaît aujourd'hui dans le monde, d'ailleurs qui est un porteur d'espérance aussi, parce que ça se réveille, ça bouge partout. Et puis ce grand mouvement aussi de pour remettre l'histoire à l'endroit, parce qu'il se raconte beaucoup de bêtises sur la Seconde Guerre mondiale, eh bien c'est une école française, l'école du révisionnisme. Donc c'est en France que je pense, et je dis ça parce que je suis français et corse qui plus est, donc très très français, parce que je rejette le combat indépendantiste corse. Eh bien je pense que ça se fera en France. Et ce qui se fait en France est toujours regardée avec attention à l'étranger. Toujours.
Voilà, alors, on va passer la parole au suivant. C'est vrai que ce salon vocal a une teneur particulière puisque il est particulièrement difficile à modérer pour moi au vu de la qualité des réponses et donc de la difficulté à intervenir pour passer la parole, le modérateur étant lui-même extrêmement intéressé par les réponses faites par l'invité. Alors, on a trois personnes qui lèvent la main. Alors, on va commencer. Alors, j'ai vu qu'en effet, Philippe Le Carpentier levait la main en premier, mais Bastien Braise levait la main au préalable et revient à la charge. Je vais donc lui passer la parole. On enchaînera ensuite de l'ordre chronologique. Hop. Bastien, la parole est à toi.
Vous m'entendez ?
Tout à fait.
Alors, c'était en deux temps, très rapide, hein, très rapide, en deux temps. Alors,
oui, voilà, des deux côtés, ouais. si vis-à-vis des questions et vis-à-vis de l'intervenant, ouais, désolé, ouais. Vous pouvez réduire les réponses, ce serait pas mal.
Je réduis les réponses, je suis désolé.
Donc, c'était pour demander à Yvan si, à la toute fin, vous pensez que nous, les Européens blancs, nous triompherons.
Et la deuxième question ? Comme ça, on enchaîne directement.
Oui, comme ça.
Vous m'entendez ?
Oui, très bien.
Mais c'était pour demander à Yvan Benedetti si à la fin, nous, les Européens blancs, nous triompherons ou alors nous disparaîtrons.
Alors, je vais te dire, ça dépend de nous, mais moi, je considère que nous sommes ceux qui croient au dernier quart d'heure. Quand je visitais le petit musée, on va dire encore le maréchal Pétain, sur l'île Dieu, il y a une photo du maréchal avec cette citation. C'était pour la Première Guerre mondiale. Encourageons les auras. Vous connaissez le mot d'ordre, hein, de Verdun. Ceux qui croient au dernier quart d'heure. Eh bien, nous sommes les nationalistes, nous tous, ceux qui croient au dernier quart d'heure. Et pour cela, je vous dirais que la France est un miracle quand on regarde. Hein, c'est le résultat de 2000 ans d'histoire, parce que je considère bien évidemment que le baptême de Clovis est un élément fondateur, hein, mais que le sentiment national est contemporain d'ailleurs de la chrétienté. Hein, c'est Vercingétorix qui réunit les tribus gauloises pour faire face à l'envahisseur. Donc, 2000 ans d'histoire comme ça qui sont un miracle, ils ne peuvent pas mourir. Moi, je crois au miracle. Je crois au miracle, je crois à la volonté et je crois à ceux qui croient au dernier quart d'heure. Par contre, les hommes blancs européens ne pourront survivre qu'à travers leur expression historique naturelle, ce sont les nations. On ne peut pas faire fi des nations et c'est par le rétablissement des nations historiques en Europe, que nous maintiendrons le haut niveau civilisationnel de l'homme blanc. Voilà. Ceux qui croient au dernier quart d'heure.
Alors du coup, c'est absolument parfait en termes de concision. Là, on est parfaitement dans les clous.
Ah, tu m'as demandé, moi je suis discipliné. Hein.
Alors, moi,
je suis un nationaliste, je suis discipliné. Hein.
Je ne me permettrai pas de parler après, mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une chose, alors qui n'a rien à voir ni avec la question ni avec la réponse, mais qui revient souvent sur ce canal, et quand on parle de fin du combat et des migrations, c'est peut-être un peu ce sentiment de jouissance, bah, en fait, ce besoin de jouissance qu'on a aujourd'hui, et bah, qu'on a toujours eu, hein, mais qu'on a aujourd'hui, et qui prend le pas sur le devoir. Et je pense que, en fait, dans tous les cas, quelle que soit la réponse qu'aurait pu apporter Yvan Benedetti à cette question, dans tous les cas, ça ne change pas notre engagement et ça ne change pas notre nécessité de nous engager dans la cause. C'est qu'en fait, quelle que soit la situation, quel que soit le degré de perdition de la cause, quelle que soit notre désespérance, si ça se dit, en fait, au final, qu'est-ce qu'on doit faire, tout simplement, et pas qu'est-ce qu'on peut en gagner, qu'est-ce qu'on peut sauver comme meuble. Qu'est-ce qu'on peut faire comme translation géographique pour essayer de gagner 5 années de plus de sécurité avant que la vague de merde nous tombe dessus. Au final, quel est ton devoir et fais-le. Et même si ton devoir c'est de subir jusqu'au dernier moment pour ta patrie, bah, au bout d'un moment, c'est la seule question qu'il faut se poser, à mon sens. Encore une fois, ça n'engage que moi. Alors, donc, les Fabrice Dongier qui levait la main également. Je te laisse la parole, Fabrice Dongier. Fabrice, une fois.
Oui, bonjour.
Ah, bonjour.
Bonjour, et d'abord, je vous remercie pour votre émission. Ben moi, je vais faire part de mon optimisme parce que je crois que nous sommes, comme l'a dit Ivan Benedetti, à une période charnière et que les gens en ont peut-être suffisamment goûté maintenant de l'individualisme, du cosmopolitisme et de tout ce que la société apporte. Je crois qu'il y a un ras-le-bol et je pense que la plupart des Français reviennent à l'idée d'une nation. Ils ont besoin d'une nation, ils ont besoin d'une histoire. L'histoire de France, elle est riche. Ils ont besoin de se retrouver dans une communauté d'être français, de culture. Et il y a en France, mais aussi, je le sens, en Europe, une volonté acharnée de défendre une civilisation européenne, et je dirais même une civilisation européenne blanche. Donc je crois qu'on va dans un moment, à une époque charnière, où tout va basculer, ça risque de se faire violemment, mais moi je suis très optimiste et je vois de plus en plus, et j'entends de plus en plus de gens, de Français, qui se rapprochent de nos idées, qui veulent même adhérer, parce qu'ils n'ont pas envie d'être phagocytés par le RN. Moi, je suis vraiment optimiste et je pense qu'on est à une époque charnière. Donc, je voudrais savoir ce que mon ami Ivan en pense.
Oui, c'est un témoignage. C'est un témoignage de notre ami Fabrice que je connais et qui est d'autant plus louable que je l'ai soutenu il y a 15 jours devant un tribunal devant lequel il était convoqué pour les propos qu'il avait tenus sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, même quand on est victime de la répression du système, eh bien, on peut être porteur comme ça, être optimiste. Bainville disait « l'optimisme est la mère des révolutions ». Vous voyez, donc eh ben, c'est louable. Merci beaucoup.
Alors, question suivante. Donc, voilà, on a trois personnes qui lèvent la main depuis un certain temps. On va passer la main à Louis IX Saint-Louis, qui a un pseudo très significatif. Louis IX, notre bon roi, nous vous écoutons.
Salutations à vous tous.
Oui, bonsoir. Salut.
En fait, lorsque j'ai entendu dire parler de que vous avez renoncé le séparatisme corse, en fait, ça m'avait aussi fait penser aux mouvements séparatistes que l'on trouve en Europe, que ce soit en Catalogne, en Écosse, en Irlande aussi. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ces mouvements séparatistes qui empruntent une espèce de crypto-nationalisme de manière très artificielle, en fait, mais en fait, sous le masque, en fait, c'est très marxiste, c'est très cosmopolite, c'est aussi très mondialiste aussi qu'en fait que ces mouvements séparatistes, ils veulent quitter un territoire en fait, leur territoire ancestral, juste pour rejoindre des instances, des institutions supranationales comme l'Union européenne ou l'ONU, etc. En fait, ou par exemple, je vois le cas surtout en Écosse avec le parti nationaliste. Le parti national écossais, en fait, qui n'a rien à voir, qui n'est pas national du tout. Et oui, franchement, c'est vraiment du double novlangue, hypocrisie, etc. Et bref. Et pouvez-vous me dire, en fait, pourquoi maintenant tous ces mouvements séparatistes, indépendantistes, en fait, ils sont l'inverse de ce qu'ils prétendent être en fait.
Alors, il y a eu des mouvements indépendantistes très fascisants, hein, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale. Ceux d'aujourd'hui sont en effet plutôt gauchistes. Mais ce qu'il faut retenir en fait des mouvements séparatistes, c'est que comment pourraient-ils lutter contre des forces d'oligarchie puissantes en se privant d'un État fort. Parce que quand je parlais, je redonnais la définition de Maurras, qui fonde l'ordre et la justice, c'est-à-dire liberté en bas et autorité en haut. Justement, l'autorité de l'État s'applique pour défendre l'individu face à la voracité de d'oligarchie, de puissance financière, de sociétés occultes, si vous voulez. Donc, une région, c'est le creuset, la région, c'est très important. Je dirais même les terroirs, puisque c'était la France des paroisses et des terroirs et des églises. Hein. Même, j'insisterai plus sur les terroirs que sur les régions, parce qu'entre deux vallées, il peut y avoir des traditions sensiblement différentes. Donc, c'est le creuset, c'est très très important. C'est très très important. L'enracinement local, ça fait partie de l'identité d'ailleurs. D'ailleurs, nos amis identitaires insistent sur l'identité régionale, nationale et européenne. Hein, ils font la distinction des trois. C'est très important, mais elle ne suffit pas pour défendre l'individu face à toutes ces voracités les voracités de groupes qui servent leurs propres intérêts, et notamment l'oligarchie qui veut toujours plus s'enrichir en ruinant le peuple. Donc voilà. Pour faire court, puisqu'on me le demande, sur le problème des régionalismes et des séparatismes.
Alors, merci beaucoup. Tim, qui est avec nous. Tim, est-ce que tu es toujours là?
Tim. Oui, bonsoir, vous m'entendez?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Benedetti. Merci bonsoir. À vous. Merci au canal Telegram. Je trouve que c'est une excellente idée que d'investir la thématique de l'effondrement.
Super.
Gros soutien à vous. J'aurais aimé avoir, moi, le point de vue de M. Benedetti sur la France de 2050. Voilà, j'aurais aimé savoir quand et comment vous pensez que le système actuel va s'effondrer. Merci.
Alors, quand on en parlait avec Pierre Sidos, et qui a fait celui que je suis politiquement, eh bien, il me disait toujours, on ne peut rien prévoir. C'est toujours l'imprévu qui surgit. Regardez, est-ce qu'il y a 2 ans, on aurait prévu cette pandémie et les conséquences sur nos vies et sur la société? Est-ce que on aurait pu prévoir que je pense à cette affaire, par exemple, de l'abbé Pierre qui prenait la défense de, pour ceux qui s'en souviennent, de Garaudy, et prenait la défense de positions Garaudy qui tenait des positions révisionnistes. Là, c'est toujours l'imprévu qui prévaut. Donc en fait, il faut. On célèbre l'empereur Napoléon Ier, il disait il faut dormir sur les champs de bataille. En fait, c'est ça. Il faut dormir sur le champ de bataille pour être prêt quoi qu'il arrive. Voilà. Et ne pas faire de grandes projections parce que ce n'est jamais ce qu'on a prévu qui se produit. Donc, dormir sur le champ de bataille, c'est ma réponse. Je ne pense pas à 2050.
Merci beaucoup, Yvan. Alors, question suivante de Philippe Le Carpentier. Philippe, une fois. Philippe, deux fois. Philippe, trois fois. Adjugé, à la prochaine. On a donc Louis IX qui voulait intervenir une nouvelle fois. Louis IX. nous t'écoutons.
Mon autre question, en fait, c'était aussi de partager avec vous, en fait, que nous, en fait, dans nos sociétés multiculturelles post-européennes, en fait, c'est qu'il y a, il y a deux manières, en fait, de, d'admettre qu'il y a un grand remplacement, en fait, un changement démographique. Parce qu'en fait, je prends l'exemple, en fait, de certains présentateurs télé qui disent que, par exemple, le grand remplacement, c'est une théorie d'extrême, c'est une théorie complotiste d'extrême droite, ça n'existe pas, etc. Par contre, il arrive des fois dans 15 secondes plus tard, ils disent que, par exemple, les Français tous deviendront minoritaires en 2050 sur leur propre terre, à partir de 2050, et que c'est une excellente nouvelle en plus. Par contre, ceux qui disent l'inverse, que les Français tous deviendront minoritaires en France à partir de 2050, et que c'est une chose catastrophique, extrêmement grave, qu'il faut faire quelque chose pour empêcher ça à tout prix, et ben ils sont taxés de complotistes, conspirationnistes, nazis, fascistes, racistes, tous les adjectifs qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Et en fait, je me demande, en fait, pourquoi c'est que on ne peut uniquement admettre que, qu'un changement démographique existe uniquement dans les pays occidentaux, mais uniquement quand c'est admis comme étant une chose positive, pas quand, quand c'est une chose négative.
Oui, c'est en fait, Maurice Barrès disait, un des maîtres à penser, Maurice Barrès disait, c'est toujours le combat des mêmes contre les mêmes, c'est-à-dire le combat des nationalistes contre les cosmopolites. Et aujourd'hui, nous sommes, nous vivons sous l'ère de l'idéologie cosmopolite. Donc, tout s'est primauté de l'étranger sur le national. Donc, à partir de là, tout découle et toutes les interprétations se font selon ce principe de la primauté de l'étranger sur le national. Et toute cette clique-là qui est au pouvoir, en fait, ils ont peut-être une nationalité française et ils ont un passeport français, mais en fait, ce sont des mondialistes. Donc, c'est pas étonnant, quoi. Il faut pas s'en tenir à cela. Nous sommes maîtres chez nous. Nous devons redevenir maître chez nous. Nous avons toute cette légitimité pour l'être. Il suffit de regarder le passé, l'histoire, notre patrimoine. Ce que nous avons apporté au monde, c'est considérable, notamment ce qu'a apporté la France au monde en matière de découverte, en matière de santé, en matière de culture, de littérature. Donc, là est notre légitimité pour affirmer nous sommes chez nous et nous allons rétablir notre souveraineté chez nous, point barre. Il n'y a pas à discuter là-dessus, il n'y a pas à démontrer.
Rappelons que Jean Raspail, visionnaire s'il en est, que nous avons enterré l'année dernière, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Moi, je suis entièrement d'accord avec Yvan Benetti que les prévisions en politique, tout comme en géopolitique, sont très souvent vaines. Hein. Même les plus grands systèmes d'analyse au monde n'avaient pas vu la chute du mur de Berlin arriver. Alors c'était un événement majeur dans la politique internationale. Jean Raspail nous disait que la bascule sur des études qu'il avait menées avec des démographes et des personnes pointues sur le sujet arriverait en 2025. Alors en général, c'est des échéances qu'on repousse au fur et à mesure, telles des témoins de Jéhovah, puisqu'en effet, les prédictions en politique sont toujours très, très tangentes, mais que le remplacement de population tel qu'il s'opère aujourd'hui entraînerait des choix, sans préciser quels choix, hein, évidemment, mais des choix qui seront nécessaires à faire par les populations aux alentours de 2025. Ça peut être 2025, ça peut être 2030, mais en effet, quand on voit la progression de la population française et des populations européennes en fonction de leur taux de remplacement propre, on peut imaginer en effet que aux alentours de 2025-2030, il se passera quelque chose. C'est-à-dire qu'il se passera soit ce que certains prédisent de manière violente, soit une défaite sur certaines idées, soit en effet des réactions politiques intra-systémiques qui auront une résonance ou pas. Mais c'est sûr que je pense qu'on vit, je suis d'accord avec Yvan Benedetti, on vit une époque où notre génération sera au cœur des événements qui façonneront la France de demain. C'est absolument certain. Alors, on a... excuse-moi, Yvan. Oui.
Non, je disais, c'est une évidence que on est à la croisée des chemins.
Je ne fais que me reposer sur Jaurès Paille, espérant que son message prophétique, prophète de malheur, mais prophétique qui s'est produit une fois, donnera raison à ce second message qui verra la bascule se produire, quelle que soit cette bascule. Peut-être malheureusement que ce sera une triste bascule, mais en effet, je pense que nous vivrons la bascule. Philippe Le Carpentier qui s'échine depuis quelques dizaines de minutes à vouloir intervenir. Philippe Le Carpentier, êtes-vous là? Philippe Le Carpentier. Oui, très bien.
Ah, bonsoir, oui, j'ai dû mal m'y prendre tout à l'heure, désolé. Bonsoir à tous et merci pour cette soirée. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Benedetti. Je vais essayer d'être très rapide et je voulais vous dire, j'avais eu l'occasion et ça a achevé de me convaincre d'adhérer définitivement aux idées nationalistes quand je vous ai entendu lors d'un hommage à Pierre Sidos sur la radio Méridien Zéro avec deux de vos camarades. Voilà, juste... Petit clin d'œil par rapport à ça. Très brièvement, voilà, moi je vous fais un petit signe de Rouen, ville importante par rapport à Jeanne d'Arc, et très concrètement, comment se mettre en rapport avec les nationalistes au niveau local. Et deuxièmement, comment analysez-vous, même s'il faut en mesurer les limites évidemment, mais comment analysez-vous et quelle portée possible sur la tribune des généraux, quand on voit le déchaînement effectivement qui s'est fait sur, etc., des menées putschistes ou je ne sais quoi, sauf que quand on fait un putsch, évidemment, on ne l'annonce pas. Donc, ne pensez-vous pas que même s'il faut en mesurer les limites, ceci est comme intéressant dans la mesure aussi où ces généraux, ces militaires font référence au mouvement des Gilets jaunes. Je crois que ceci est très, 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 très intéressant et que leur intervention dénote effectivement quand même, parce qu'ils ne sont quand même pas, que ne sont-ils intervenus avant quand ils étaient d'actifs, mesure quand même, prend la mesure de la déliquescence actuelle et ceci est quand même, je pense, assez intéressant. Qu'en pensez-vous?
Alors, je vous dirais que c'est très très intéressant, bien évidemment, puisque on voit deux camps radicaux qui se dessinent, notamment entre les nationalistes et les cosmopolites, hein, entre les nationalistes et les républicains, enfin tout ce qu'on a connu dans l'histoire de guerre sur cette fracture-là, et que de toute façon, on ne pourra faire triompher notre idéal et cette révolution que s'il y a union du camp, je dirais, du camp conservateur, du camp patriotique. Prenez comme référence la révolution en Russie, avec les bolcheviks et les mencheviks, les majoritaires et les minoritaires. Nous, les nationalistes, nous sommes les minoritaires, nous sommes les mencheviks. Nous sommes les bolcheviks, pardon. Et il faut que ce camp se constitue, ce camp des mencheviks, il faut union des forces souverainistes, patriotiques, et dans ce processus-là, l'armée a un rôle très, très important. Quand l'armée comprendra que l'ennemi n'est pas notre ennemi n'est plus en Afrique, mais qu'il est sur le territoire national même, on aura fait un grand pas. Et cette tribune contribue à aller dans ce sens. Donc voilà, de toute façon, c'est un mouvement qui se dessine. On voit le théâtre se mettre en place, les acteurs se mettre en place. Et dans le, je le répète, dans ce bouleversement qui arrive, il faut l'union des forces patriotiques avec au centre de tout ça l'armée, puisque l'extrême gauche, les cosmopolites à travers l'extrême gauche tient la rue. Ils sont très très efficaces dans la rue. On a vu notamment au moment des Gilets jaunes, ils ont chassé des cortèges. Et j'en sais quelque chose puisque je me suis fait un petit peu massacrer par les antifas. Difficile à nous de tenir la rue, là où l'extrême gauche est maître, notamment avec la complicité des forces répressives, hein, bien évidemment. Donc, il nous faut le concours des hommes d'armes, de ceux qui savent combattre, de ceux dont le métier et la guerre. Donc, ce processus et surtout les répercussions que ça a est quelque chose de très positif.
Alors moi, je ne ferai que rappeler le sondage qui a été posté sur ce canal à propos de la tribune des militaires. Alors, il y a eu un certain partage, hein, puisqu'on a eu 11 et 15% des gens qui trouvaient qu'en effet, ces gens avaient été serviles et ne se réveillaient que maintenant, et donc on n'avait pas nécessairement à les écouter. Mais on a quand même 49% des gens de ce canal qui ont estimé que, certes, cette tribune allait certainement faire un flop, mais que tout ce qui pouvait déstabiliser la République était positif. Et je pense que c'est globalement la position derrière laquelle je me rangerai. Et quand même 25% des personnes qui pensent que ces généraux, bien qu'ils aient eu une carrière servile, le fait qu'ils se prononcent un peu tard, mais qu'ils se prononcent, on ne peut pas leur reprocher, puisqu'on ne peut quand même pas reprocher à des gens de rejoindre notre cause, même si c'est un peu tardif. Donc voilà pour le résultat du sondage sur notre canal auquel vous avez pu tous participer. Alors maintenant pour les questions suivantes. Alors Arnaud Thierry, qui est un habitué de nos salons vocaux. Arnaud, je passerai la parole ensuite à Bastien Braise qui lève la main depuis un certain temps. Mais Arnaud Thierry, dont c'est la première intervention ce soir, et qui est encore une fois un habitué de nos échanges. Arnaud Thierry, nous entends-tu? Arnaud Thierry, nous entends-tu une fois?
Bonsoir, bonsoir.
Oui, vous
m'entendez?
Très bien.
Ça marchait pas. Bonsoir, Monsieur Beneditti. Je voulais vous poser une question, en vous occupant sur tout ce qui est problème de natalité et problème de démographie. Moi, je me réfère souvent quand ça s'appelle au passé, parce que j'ai fait un peu d'archéologie. Et en fait, moi, je me rends compte que quand en fait, Homo sapiens, qu'on s'appelle a fait disparaître, qu'on s'appelle Néandertal, est-ce que c'est justement pas ça la solution, en fait? Voilà, c'est juste ma question sur ce point de vue-là.
Alors, je comprends pas bien la question, mais c'est évident que le combat d'aujourd'hui, il est simple, hein, c'est un problème démographique. Hein. Et d'ailleurs, si nous sommes menacés en tant que peuple européen, en tant qu'homme blanc, c'est parce que nous avons une démographie catastrophique, due à la destruction de la famille, due à un modèle de société. Quand je parlais des croyances de la société en place, c'est la croyance, c'est que la consommation va nous apporter, nous conduire au bonheur. Hein, donc, une société consumériste, individualiste, qui a évacué toute transcendance, toute spiritualité et la présence de Dieu. Donc, cet avortement terrible, qui est un crime, que ce qu'on se place du point de vue moral, puisque c'est l'assassinat des enfants à naître, et qui est un crime politique, puisque c'est un ethnicide, hein, c'est une purification ethnique. Donc, le problème démographique est un problème crucial, premier dans le combat que nous menons, c'est évident. Ils font le vide des Européens pour le remplir par l'immigration, quoi.
Alors, merci beaucoup. Nous avons donc alors Bastien Braise, je vais te passer la parole, il n'y a aucun problème, mais nous avons une personne, donc un Mathieu, qui intervient pour la première fois ce soir, qui est lui aussi un habitué de nos salons vocaux, à qui je vais passer la parole. Mathieu, es-tu là? Mathieu, une fois.
Vous m'entendez?
Bon. Oui, tout à fait.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir Yvan, et merci aux organisateurs pour cet excellent vocal. Ma question portera plus sur les personnes identitaires nationalistes qu'on voit souvent à la télévision. Je pense à Zemmour, Jean Messia ou même Fernand Philippot. Beaucoup de personnes se retrouvent en eux en disant que c'est une source d'espoir en écoutant ces personnages-là. Mais est-ce, selon vous, un piège de voir des gens qui ont la tribune à la télévision par rapport à des gens qu'on n'entend jamais, comme vous par exemple.
Oui, vous m'entendez ?
Tout à fait.
Oui. C'est évident que le jeu est biaisé. Quand je parlais d'un certain avocat qui a ses roues de serviette sur une chaîne de télévision, là, et qui se permet de phagocyter tout le camp national, que ce soit ses prises de position à propos de la tribune des militaires pour le soutenir, que ce soit les nombreux soutiens et amis qu'il y a dans le mouvement électoraliste patriotique le plus puissant, alors qu'on sait très bien, je parle de Golnadel, hein, pour ne pas le citer, que c'est un agent israélien. Oui, c'est quand même rageant de voir que le camp national est représenté à la télévision par des personnes comme celle-là. Alors Zemmour, c'est encore un peu plus nuancé parce que il va jusqu'à soutenir le maréchal Pétain et l'action du maréchal Pétain en disant qu'il a sauvé les Juifs pendant la guerre. Mais je pense que c'est le révélateur que nos idées, on le vend en couple, qu'elles poussent très très fort. Et vous savez, c'est Schwab dans Le Grand Reset qui dit, et pour moi c'est un signe d'impuissance des mondialistes, parce qu'ils se retrouvent bloqués dans leur plan de domination mondiale et qui doit se conclure par un gouvernement mondial. Il dit, si c'est pas nous, si on se réorganise pas, c'est les nationalistes qui vont l'emporter. C'est le révélateur d'un grand mouvement, et c'est ce que je vois, c'est ce que j'en tire, notamment les réussites éditoriales de Zemmour, les réussites éditoriales de Villiers, tout ça. J'en tire l'aspect positif, quoi. Voilà.
Voilà. Encore une fois, moi, je ne suis pas du tout là pour intervenir, mais en effet, c'est quelque chose, ça fait du bien de l'entendre dans le milieu, parce qu'on entend souvent beaucoup de critiques de tout un chacun vis-à-vis de tout le monde. Au bout d'un moment, peut-être, en effet, faut-il arrêter d'être meurtri par les réussites électorales, littéraires ou médiatiques des personnes qui défendent une partie de nos idées. Faudrait peut-être un peu plus nous ériger contre nos ennemis directement plutôt que contre les gens qui en partie défendent une partie de nos idées, même si ces personnes peuvent être parfois très dommageables, puisqu'elles peuvent, comme Marine Le Pen par exemple, détruire et empêcher complètement nos idées d'être entendues et d'être respectées auprès de la population française, qui je pense pourrait les entendre et pourrait les recevoir sans aucun problème si on n'avait pas des fritures sur les ondes comme ce parasite de Marine Le Pen. Bastien Braise, qui levait la main depuis un certain temps, la parole est à toi. Bastien Braise une fois. Bastien Braise deux fois. En attendant que Bastien Braise se fasse couper la parole à nouveau, n'hésitez pas à lever la main pour intervenir les uns les autres. Nous sommes... Ah voilà, alors là tout de suite ça intervient. Oula, oula. Bastien Braise, as-tu quelque chose à dire ? On va couper. Alors, donc Arnaud Thierry... Ah, Tim qui levait la main à de multiples reprises. Tim.
Oui, vous m'entendez ?
Oui, tout à fait.
Alors moi, écoutez, j'aurais bien posé une question à M. Benedetti. Est-ce que vous pensez que la thématique de l'effondrement soit assez investie par les nationalistes ?
La thématique de... Pardon, j'ai pas entendu.
La thématique de l'effondrement.
L'effondrement est-elle,
est-elle assez prise en compte, investie par les nationalistes ? Alors, je vais laisser la parole à Tim peut-être pour préciser un petit peu. Est-ce qu'on parle de la place des nationalistes dans le survivalisme, par exemple, qui est un mouvement qui est assez hybride? Tim, je...
En fait, je faisais allusion à tout un courant qui est en train de pas mal émerger, qui rejoint, vous savez, le constat que vous faisiez juste avant de la population qui commence à ouvrir les yeux sur un système qui s'effondre. Voilà, bah, en réaction à ça, il y a quand même tout un mouvement qui émerge et qui porte des idées telles que la réappropriation des campagnes, le localisme, et également, oui, voilà, tout un volet qui dit du survivalisme, où les gens s'entraînent, se préparent, essayent de gagner en autonomie, justement, parce qu'ils se préparent à des choses dont la guerre civile, dont la raréfaction des ressources, etc., etc. Et donc, cette thématique-là, parce que moi je suis ravi de voir par exemple le canal Telegram émerger, parce que je vous ai découvert il y a peu de temps, et je trouve que c'est une excellente idée. J'ai un avis sur la question, mais moi j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que nous les nationalistes nous investissons assez cette thématique qui émerge?
Yvan. Yvan, nous entends-tu? Yvan, es-tu là? Alors, nous allons résoudre ce petit problème technique sous peu. En effet, c'est une excellente question et nous ajoutons, je pense, à l'issue, une autre question sur la, je pense, qui est beaucoup débattue sur Telegram, la question de l'abandon des villes. Puisque vous savez que sur ce canal, nous sommes farouchement opposés à l'abandon des villes. Nous sommes évidemment en faveur de la réappropriation des campagnes, de la constitution de communautés solides et de communautés d'intérêt, de communautés de destin. Mais nous pensons que, comme tout mouvement organisé qui mène une guerre, abandonner les centres de pouvoir économique, politique, sociaux et de concentration de Français est une erreur stratégique. Mais nous laisserons Yvan Benetti répondre à la question. Yvan, ce que je propose, deux petites secondes. Ah, c'est bon, voilà. Donc, Yvan, as-tu entendu la question?
Oui, bien sûr, mais j'arrive plus à me connecter. Désolé.
Moi, j'ai simplement rajouté sur le dessus. Donc la question, de toute façon, est totalement pertinente par elle-même. Hein. J'ai juste rajouté sur le dessus en attendant. Qu'est-ce que tu penses?
J'ai entendu le commentaire.
Ouais. Voilà, okay, super, très bien.
Donc, je laisse la parole. Façon, quand je disais il faut être prêt à toute éventualité et dormir sur le champ de bataille, dans l'activité des nationalistes d'ailleurs, à travers notamment les camps Jeunes Nations ou les Crapahus, il y a un camp d'été d'ailleurs, chaque année, on en est à la 13e édition, ça vous montre aussi que notre légitimité, elle est dans la durée. Hein, on a une activité, une manifestation qui s'appelle le Forum de la Nation, on en est à la 23e édition, c'est pour vous dire, hein. Parce que ce qui fonde la légitimité en politique, c'est aussi la durée au service du bien commun. Donc, pour revenir à la thématique, nous organisons chaque année un camp qui dure une semaine où nous sommes coupés de leur monde et où sont respectés que les lois et les principes qui sont les nôtres. Et à travers ces camps, notamment parce que les plus jeunes, enfin les jeunes aujourd'hui n'ont pas la possibilité de faire leur service militaire, nous leur donnons un minimum de formation, non pas avec les armes, puisque c'est interdit, et puis ils peuvent se former ailleurs, mais nous leur donnons une formation de retour à la nature, de vie en communauté restreinte, de comment se débrouiller dans une vie campagnarde, hein, puisque il y a 2 ans on a tué le cochon, l'année dernière on a tué les poulets, si vous voulez, voilà, c'est peu de choses, mais c'est important, ça fait partie du combat politique, voilà. Donc je dis pas qu'il faut, je pense que la nuance que tu as apportée là, c'est à la question, c'est j'ai souscrit totalement, mais il faut être rustique, je pense. L'avenir appartient à ceux qui sont rustiques et peuvent réagir quelles que soient les situations données. Voilà.
Super, merci beaucoup, Yvan. Sur la question, juste pour répondre à ma question, c'est une question vraiment personnelle, mais question dans le cadre de l'effondrement, de l'abandon des villes. Beaucoup prônent aujourd'hui, on le voit beaucoup sur Telegram, dans de nombreux groupes, notamment survivalistes, des gens qui prônent l'abandon des villes. Est-ce que tu penses que stratégiquement, le fait de se replier massivement à la campagne n'est pas un premier pas vers l'abandon du combat en règle générale ?
Que tu peux répéter la question, si tu veux, ça passe mal là.
Alors, je disais, beaucoup de personnes débattent sur Telegram du fait, notamment dans les milieux survivalistes, d'abandonner les villes qui seraient, d'après leurs propres mots, hein, aujourd'hui perdues. Et pour organiser la reconquête, il faudrait se recentrer dans les périphéries pour organiser des communautés de destin. Et commencer la reconquête par là. Mais du coup, ça commencerait par abandonner les villes. Est-ce que tu penses que stratégiquement, abandonner les centres de décision politique, sociale et économique est une bonne chose ou pourrait quand même être une défaite tactique, voire stratégique ?
Je suis réservé sur cela parce que c'est évident que quand tu parlais de constitution de corps intermédiaires à la Révolution nationale, c'est difficile de constituer ces corps-là dans les villes, dans les mégapoles qui sont ouvertement cosmopolites, puisque les villes sont cosmopolites, les campagnes sont nationalistes, hein, dans l'esprit, hein, je parle en général. Donc c'est évident que pour nous, c'est très difficile, restant en ville, de constituer ces corps-là. Alors, je dirais que je ferai une distinction entre Paris et les villes en province. Je pense qu'il faut mener, il faut continuer un combat dans les villes, notamment la Paris. C'est très important de mettre la pression sur le pouvoir à Paris. Vous savez, quand Adolf Hitler est parti à la conquête du pouvoir, il s'était installé dans un hôtel qui était face à la chancellerie allemande pour que tous les jours, il avait installé ses bureaux face à la chancellerie allemande à Berlin pour que tous les jours, il voit là où il devait aller, là où il devait conduire les nationalistes, c'est-à-dire au pouvoir. Et en face, à la chancellerie, le chancelier, le pouvoir officiel, le pouvoir légal, voyez, avait une constante pression, même physique, une pression physique de l'opposition, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut maintenir une présence politique dans les villes et constituer les corps intermédiaires dans les campagnes qui sont nationalistes.
Merci beaucoup, Yvan. Alors, nous allons passer la parole. Encore une fois, il y a des gens qui lèvent la main depuis un certain temps, mais nous avons par exemple Michael Whitman qui intervient pour la première fois ce soir. Michael, la parole est à toi.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Tout à fait.
Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Yvan Benedetti. Et je profite de faire un petit bonsoir aussi à Maître Bonneau, qui est parmi nous, j'ai vu. Alors, monsieur Benedetti, que pensez-vous de la division au sein de notre mouvance aujourd'hui ? On est assez divisé, enfin, je le ressens comme ça un petit peu, émietté, entre, par exemple, les nationalistes, purement nationalistes, et les européistes. entre catholiques ou ceux qui sont tendance plutôt païen, tendance païen républicain. Par exemple, moi, j'ai juste pour l'anecdote, j'ai voulu faire un partage de votre hommage pour ce 9 mai à Jeanne d'Arc. Je me suis imaginé que tout Français, même européiste ou nationaliste ou païen, catholique, pouvait se retrouver autour de cette héroïne de l'histoire de France. Eh bien, en fait, j'ai été censurée directement, mais c'était bon, sur le canal de conversation de Conversano, mais qui est très qui est très fréquenté, et que ce soit par des païens ou par des chrétiens, des catholiques, ou voire quelques orthodoxes peut-être. Et malheureusement, j'ai été assez déçue d'être censurée au bout de 5 secondes à peine. C'est quand même assez triste de voir ça. Et puis j'ai aussi une petite pensée pour Hervé Rissen aussi, que je voulais faire partager. Je trouve qu'il traverse une période assez difficile en ce moment, suite à sa libération ce 17 avril. Voilà, je voulais lui rendre un petit hommage et je trouve que c'est pas facile pour lui en ce moment.
Oui, vous citez, ou tu cites un canal en particulier, ils ont leurs règles de fonctionnement, c'est libre à eux. C'est vrai que ce qui est très dommageable, c'est la division qui règne. Alors, qu'il y ait différentes tendances, différents mouvements, ça, c'est pas négatif parce que ça ratisse plus large, ça permet le dynamisme intellectuel, de pensée, dans les confrontations d'idées. Ça rend aussi la répression plus difficile, parce que quand il y a une structure, il suffit de la dissoudre. On voit avec quelle facilité aujourd'hui ils arrivent, via la tyrannie sanitaire, à dissoudre les organisations, alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué pour eux, parce qu'il fallait mettre en position l'opinion publique, à travers des grandes campagnes médiatiques, notamment notre dissolution a été préparée par l'affaire Méric, alors qu'on était totalement étranger, absent de cette histoire, physiquement. La diversité, c'est pour moi une force, c'est un peu comme les doigts d'une main. Par contre, il faudrait qu'on arrive un minimum à se coordonner, ce que savent faire nos ennemis, parce qu'il faudrait une convergence de force quand même, quelles que soient nos différences. Quand je parle de camp patriotique, camp national, de toute façon, les faits vont rendre cela obligatoire. Vous savez, c'est en période de révolution, justement, les camps se dessinent, et au bout du compte, quand il y a l'affrontement, c'est deux grands camps qui se font face. Donc laissons ça derrière nous, essayons, c'est difficile, hein, essayons de pratiquer la bonne concorde entre différentes structures, personnalités. Je dois dire que c'est difficile parce que ceux qui mènent le combat ont des tempéraments, c'est justement pour ça qu'ils sont en résistance, hein, sinon ils seraient comme parmi les moutons dans cette société. Donc c'est les défauts des qualités, je dirais, voilà, c'est la difficulté de rendre conciliable tous ces fréquentables, tous ces tempéraments, voilà. Alors j'ai un impératif, je vais devoir vous quitter là, je suis désolé. Je ne sais pas combien devait durer le salon, mais là je crois que je m'absente. J'ai un impératif, je tiens à vous excuser. Je ne sais pas combien de temps tu voulais que ça dure.
Alors, il n'y a pas de durée limite, hein, donc voilà. Mais si tu as un impératif, il n'y a aucun problème.
Oui, je suis désolé pour ceux qui voudraient poser d'autres questions, mais après, je suis, pour ceux qui veulent, je suis disponible sur Telegram. Ils peuvent me contacter directement. Hein. Je serais heureux de discuter avec eux. Je tiens à te remercier une nouvelle fois de ton invitation. C'est vraiment quand on parle justement de division, pour le coup. Je sais que dans ce canal, puisque je le suis, il y a de nombreuses tendances qui sont représentées. Donc, c'est très bien. Pratiquons la politique de ton groupe Telegram et pas d'autres, quoi, voilà, hein, avec la courtoisie élémentaire et puis de pouvoir nous parler les uns les autres et de nous écouter les uns les autres. Ça vaut pour les nationalistes aussi, quoi. Voilà.
Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Yvan, merci beaucoup de ta disponibilité, de tes réponses qui ont été extrêmement enrichissantes pour tout le monde. Et écoutez, à tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée. Vous pourrez trouver l'enregistrement de cette intervention, je pense, dès demain ou après-demain sur le canal. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée Yvan.
Au revoir.
Au revoir.